Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h07 de retour sur RMC.
Oula, on est dissipé. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, vous savez, j'ai un producteur extrêmement drôle qui s'appelle Pierre Amiche, qui sera avec nous à 10h30 pour l'homme en colère. Et il n'est pas avare de m'balancer quelques petites vacheries comme ça juste avant de reprendre l'antenne. Et parfois, il connaît mon mental de chips et je craque. Mais je suis très heureux d'être avec vous, la joie, la bonne humeur, dans les grandes gueules du sport. Bonne matinée, bon petit déjeuner, bon poulet du dimanche. Qu'est-ce que je pourrais souhaiter d'autre? Bonne sieste tout à l'heure.
Voilà. T'as vu qu'on t'aide pas du tout là?
Non, j'ai bien vu. Tu es avec Olivier Giraud, j'ai l'habitude, Simon Dutin, Mario Bartoli, Marc Madio, merci infiniment de votre fidélité. Dans quelques instants, on parlera de Karim Benzema qui se préserve pour la Coupe du Monde, son état de santé, est-ce que ça vous inquiète? 10h30, je le disais, Pierre Amiche, un homme en colère, il pourra balancer ses mots, voilà, dans sa séquence, Pierre Amiche, qui veut revenir sur l'histoire de la potion magique de Novak Djokovic. À mon avis, ça va faire
je
bondir.
Je ne suis pas d'accord avec Pierre.
Et Marc Madio et Marion
je
Bartoli.
Je ne suis pas d'accord.
Et puis 11h, le bras de fer des GG, Victor Wembanyama a flambé pour sa première sélection avec l'équipe de France alors que se profile le Mondial 2023, les Jeux Olympiques 2024. Faut-il déjà en faire un patron? Il y aura une team patron et une team pas patron. Et vous allez voir, il y aura un 3 contre 1. Mais il sait très bien se défendre. Je vous dévoile tout ça à partir de 11h. Mais on va débuter cette nouvelle heure d'émission avec cette citation célèbre de Didier Deschamps qui a dit un jour, Benzema, au contraire.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Ballon d'or 2022.
C'est pourtant Karim Benzema.
Karim Benzema. Ballon d'or, c'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que moi, pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà.
Oui, Karim Benzema va manquer son troisième match consécutif.
Ah, oh, bravo. Alors, vous parlez d'un héros.
Je sais pas combien de temps encore. Quand je me lèverai le matin et ça deviendra dur d'aller à l'entraînement.
Karim Benzema se ménage et devrait bien figurer dans la liste des Bleus.
Si c'est simplement une précaution, il n'y a aucune raison d'être inquiet.
Et comment je pourrais prouver que je suis un héros si personne ne me donne ma chance?
Tu auras ta chance.
Attaquant, Karim Benzema.
Et il arrive.
Mais il arrive ce ballon d'or.
Il entre sur cette pelouse sous une
pluie d'applaudissements. Le petit sourire de Karim Benzema, beaucoup d'émotion.
On ne confond pas la F1 et le karting. Je suis gentil. Je ne suis pas.
Mais si, Karim, t'es un héros. Depuis septembre, Karim Benzema enchaîne autant les récompenses individuelles que les pépins physiques. Gêné aux cuisses, le ballon d'or français a déjà manqué 8 matchs avec le Real et le dernier rassemblement avec les Bleus. Depuis le 22 octobre dernier, il n'a disputé que 28 minutes en compétition. Il se ménage. Pour certains, on ne nous dit pas tout. Pour d'autres, la musique qui fout les jetons et cette question. C'est simple, c'est clair, c'est net. Êtes-vous inquiet? Oui ou non, Simon Dutin?
Non.
Marc Madio.
Oui.
Marion Bartoli.
Oui.
Olivier Giraud.
Oui.
Trois oui, un non avant de débattre. On va retrouver notre journaliste RMC Sport, Fabrice Hawkins, qui suit les Bleus. Salut Fabrice.
Ah, salut JC, salut tout le monde.
Fabrice. Alors, quelles sont Fabrice. Nos dernières informations, celles qui ont fuité concernant le Ballon d'Or?
Eh bien, les dernières infos, c'est Karim Benzema qui les a données lui-même. Depuis le 20 octobre, il n'a joué que 28 minutes. Tu le disais, c'était contre le Celtic en Ligue des Champions. Alors, a-t-on des raisons de s'inquiéter? Non, dit l'attaquant. J'ai eu quelques petites gênes. Rien de grave, a-t-il indiqué au micro de Prime Video. Il y a encore du temps d'ici le 22 novembre. On rappelle que c'est la date du premier match de l'équipe de France en Coupe du Monde, ce sera contre l'Australie. Je serai en forme, prêt physiquement et mentalement. Benzema est donc confiant. En privé, il tient le même discours, hein, même s'il a déclaré forfait 5 fois sur les 6 derniers matchs du Real Madrid. Il a une petite pointe à la cuisse, de la fatigue aussi, après cette saison canon qui lui a permis de gagner le Ballon d'Or. Après avoir discuté avec son coach Carlo Ancelotti, ils ont convenu qu'il ne jouerait pas tant qu'il n'est pas à 100%. Pas question de prendre de risques à quelques jours de la Coupe du Monde. En tout cas, Didier Deschamps, lui, n'a pas hésité à le sélectionner, même si Karim Benzema joue très peu ces derniers temps.
J'ai échangé avec Karim, bien évidemment, pour avoir les tenants et les aboutissants. Évidemment, s'il n'est pas sur le terrain, c'est qu'il a eu un petit souci. Et les staffs médicaux ont échangé ensemble par rapport à ce que représente la Coupe du Monde. Il est vigilant, très, très vigilant. Et le connaissant, ce n'est pas quelqu'un qui va rester sur une table de soins. S'il n'est pas sur le terrain, parce qu'il n'y a pas de risque à prendre.
Voilà, Deschamps veut compter sur Karim Benzema. Une attaque Benzema-Mbappé. L'ancien Lyonnais est toujours efficace. 5 buts et une passe décisive en 7 matchs de Liga. Mais il n'a plus joué avec les Bleus depuis le 13 juin dernier. C'était contre la Croatie.
Merci beaucoup Fabrice. Tu restes avec nous pour ce débat. Merci pour toutes ces informations. Des informations que vous retrouvez évidemment sur rmcsport.fr. Êtes-vous inquiet sur son état de santé? C'est notre question. Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Je vais aller voir un oui. Marion Bartoli, pourquoi inquiète?
En fait, moi, je suis pas inquiète sur sa blessure. Je suis persuadée qu'il sera rétabli pour la Coupe du Monde et effectivement, il fait attention. Mais en revanche, je suis très inquiète sur son manque de rythme. Parce que là, il arrive vraiment avec quasi aucun match, en tout cas aucun gros match dans les jambes. Et quand tu démarres tout de suite une phase de poule, il y a quand même des matchs compliqués à aller jouer. Il y a bien évidemment énormément de pression sur l'équipe de France. C'est évident. Et que tu as aussi peu joué de matchs, avec aussi peu de références, même quand tu t'appelles Karim Benzema et qu'effectivement t'es ballon d'or, mais tu sors d'une saison extrêmement éprouvante, tu vas bientôt avoir 35 ans et que t'as, comme vous l'avez dit, il a joué seulement 28 minutes contre les Celtics sur tout le mois de novembre, ça va pas être évident dès le début, quoi. Donc je m'inquiète plus sur le manque de rythme et sur son niveau de jeu que sur sa blessure. Sur sa blessure, je suis persuadée qu'il sera rétabli. C'est un très grand professionnel, il est dans le meilleur club du monde. Je pense qu'en termes de gestion médicale, ça sera fait et très bien fait. Mais en revanche, sur le manque de rythme et sur le niveau, là oui, je m'inquiète.
Bah regarde Marion, c'est très simple. 28 minutes depuis le 22 octobre. Le match de l'équipe de France face à l'Australie, le début de la Coupe du Monde, c'est le 22 novembre. Ouais, un mois plus tard, seulement 28 minutes de jeu. Donc forcément, ça peut poser quelques questions. Il n'est pas inquiet, c'est Simon Dutin.
Non, en préambule, je vais effectivement rappeler qu'on est tous traumatisés par 2002 et effectivement le fait qu'on pouvait pas faire sans Zidane et qu'on l'a emmené alors qu'effectivement il aurait dû rester à la maison. Il y a beaucoup de vétérans de cette équipe, à commencer par Manu Petit chez nous, qui rappelle souvent que ça a été une erreur du sélectionneur de l'époque. Effectivement, on va pas se mentir, c'est pas dingo hein, comme situation, c'est pas fou. On préférerait un mec qui enchaîne les matchs, des bonnes performances et effectivement, comme dit Marion, qui a du rythme. Cela étant dit, les référents qui discutent avec lui, c'est quand même pas les premiers venus, hein, Didier Deschamps, Carlo Ancelotti. Je pense que, contrairement à ce qu'il peut se passer dans d'autres clubs, lui, il a gagné un peu le droit avec Don Carlo et avec même Didier Deschamps, effectivement, de s'en confiner à une pure autogestion, de décider un petit peu pour lui. On rappelle quand même que son état de forme, celui qui lui a permis de briller autant ces dernières saisons, il est lié à... Alors, on a considéré qu'il s'était inspiré de ce que faisait Cristiano Ronaldo, à une prise en main de sa préparation physique absolument d'une façon absolument hors du commun, quoi. Je veux dire, il a élevé ça au rang d'art. On rappelle qu'il a
c'est de l'horlogerie, okay. Bah,
c'est-à-dire que tous les mecs qui ont eu l'occasion de l'encadrer disent qu'il y a eu une évolution et je pense qu'il connaît son corps par cœur. À ce titre-là, il est venu présenter son ballon d'or à Lyon. On l'aurait pas laissé aller gambader s'il y avait vraiment matière à rester au frigo.
Non, mais je pense que sa blessure n'est pas très grave.
Donc, musculaire, c'est toujours effectivement un petit peu ennuyeux parce que tu sais jamais quand est-ce que tu peux vraiment reprendre à fond. Cela étant dit, je pense que cette Coupe du Monde, c'est un objectif pour lui qui a été privé d'équipe de France pendant très longtemps et qu'il y a aucune raison de s'alarmer si lui-même, son sélectionneur et son entraîneur en club ne tire pas encore la sonnette d'alarme.
Bon, on a deux docteurs en plateau également, deux rhumatologues, c'est Marc Madiot et Olivier Giraud. Donc, inquiet, pourquoi inquiet? Dites-nous vite, Marc.
Inquiet tout simplement parce qu'il a fait une saison énorme qui l'a amené au Ballon d'Or. Et que derrière, il est difficile de se remettre en route, il est difficile de retrouver là où il était précédemment. Donc le physique, le mental, tout cela s'additionne. Il a fait une saison faramineuse qui l'a amené au Ballon d'Or. Et là, il y a une décompression physique et mentale qui est inéluctable. Alors après, je pense que pour la Coupe du Monde, il va y avoir un sursaut parce que ça va être la seule et sans doute unique Coupe du Monde qu'il va disputer. Donc à partir de là, il va y avoir un...
Il a disputé 2014 aussi, hein, je précise.
Ah, je vais à toi, on n'en a pas gardé un grand souvenir.
Avec le Brésil. Enfin, au Brésil,
ouais.
Plutôt.
Au Brésil, oui. Ouais. Non, mais... Pour moi, ça peut passer avec la Coupe du Monde, mais quand même, sa saison va être compliquée après la Coupe du Monde.
Et à je pense que la Coupe d'une du saison, monde, si éprouvante, c'est dur.
Ouais, et puis mais en plus,
oui, mais c'est l'objectif d'une vie là, ce qu'il a, c'est l'objectif de sa vie.
Oui, mais justement, ça va transcender. mais après
il
ça,
était
ça va
dans
être
une euphorie. À la limite, la Coupe du Monde aurait eu lieu au mois de juin, comme initialement.
Il aurait enchaîné,
ça aurait été plus facile.
C'est ok, là, il y a la petite décompression, c'est ça qui t'inquiète, toi. Il y a le temps de jeu, il y a la décompression qui vous inquiète, j'ai bien compris, toi, Olivier Giroud, tu te situes où ?
La mauvaise dynamique.
Ouais, l'objectif de sa vie, Karim Benzema, vu qu'il a été écarté pendant très longtemps de l'équipe de France, ça a été le Ballon d'Or. Ouais. Et ce Ballon d'Or, il l'a obtenu, et puis avec des années dures, toujours contestées. Et il arrive à cet objectif qui est juste incroyable, d'être reconnu enfin comme le meilleur joueur du monde sur une saison, hein, mais l'un des meilleurs joueurs du monde. Vous parliez d'horlogerie tout à l'heure. Sauf que dans le corps humain, on change pas les pièces. Hein. En horlogerie, on change les pièces. Et que Karim Benzema, depuis 2007, sur toutes ses blessures, c'est 6 blessures aux ischios. Et l'ischio-jambier, c'est un truc, tu peux être l'horloger du monde, c'est quand c'est fragile, ça pète, c'est très difficile à réparer, et avec l'âge encore moins. Donc non, il faut vraiment être très inquiet. Marion, tu l'as dit, je pense que vous avez tous dit des choses hyper justes, et le manque de rythme, ça veut dire que à partir d'un certain âge, tu peux jouer très longtemps, comme Cristiano Ronaldo l'a fait. Mais à ce moment-là, t'as plus le droit à être écarté longtemps. Il faut que tu gardes le rythme. Il faut que l'horlogerie, hein, c'est-à-dire que cette machine vieillissante, il faut l'entretenir tout le temps. Il faut surtout qu'elle ne pète pas. Et que je trouve que là dernièrement, ça pète un petit peu trop. On va lui demander énormément la manière dont il va être géré, soigné aussi, parce qu'on se soigne quand on va en équipe nationale. Hein. Il faut le savoir, on se soigne quand on va en équipe nationale parce qu'il y a énormément de temps entre les matchs. Et ben, ça va être ultra important et on le verra dès les premiers matchs. Mais vraiment, faut pas que la blessure soit plus grave qu'on ne le dit, parce qu'il veut aller à la Coupe du Monde.
Mais vous le savez, dans un cas comme ça, Marion, et je vais te relancer, mais dans un cas comme ça, avec Karim Benzema, avec un joueur de ce talent-là, il y a la blessure ou pas blessure, mais il y a aussi le côté médiatique. Est-ce qu'on veut bien nous en dire ? Est-ce que entre les lignes, vous devinez qu'il est encore blessé et qu'on veut pas trop nous le dire parce qu'on veut pas inquiéter et notamment renseigner les adversaires ? Ou non, il est pas blessé, on est dans la précaution.
Vas-y, Marion.
Excuse-moi, Olivier. Mais pour moi, il y a plusieurs choses. Enfin, je trouve que la pression, entre guillemets, médiatique qui s'est mise depuis le Ballon d'Or qu'il a reçu, je trouve pas qu'elle était forcément nécessaire. Je pense qu'on aurait pu faire une célébration, effectivement, dans sa ville d'origine, à Lyon, son club formateur, etc., faire une fresque à Bron à la fin de la saison. Une fois que tout était terminé, une fois que tous les objectifs étaient finis, là, juste avant une Coupe du Monde, venir présenter le Ballon d'Or à Lyon, la fresque à Bron, etc., je trouve que ça lui met une pression supplémentaire de devoir dire, maintenant, j'ai effectivement remporté le Ballon d'Or, je dois assumer sur le terrain et donc aller porter l'équipe de France avec Kylian pour aller gagner la Coupe du Monde.
Il se facilite l'impression... pas la tâche, c'est ça que
exactement.
Dire.
Je trouve qu'il se met aussi beaucoup dans du coton et ça commence à grincer à Madrid. À Madrid, qu'il ait raté autant de matchs, il a raté quand même 8 matchs sur 20. Ancelotti n'est pas forcément extrêmement content d'avoir son meilleur joueur, d'avoir un Ballon d'Or qui rate 8 matchs sur 20. Et j'ai l'impression qu'il se protège, qu'il est encore effectivement dans c'est fantastique d'avoir gagné le Ballon d'Or, et bien évidemment que c'est fantastique d'aller gagner le Ballon d'Or, mais il y a une échéance à préparer qui est monumentale dans une carrière de foot qui est la Coupe du Monde. Et j'ai l'impression qu'il est un petit peu entre deux eaux, de savoir est-ce que je continue à penser à mon Ballon d'Or que j'ai obtenu l'année dernière, mais aussi je dois me relancer sur un nouveau défi. Et je trouve que ça, cumulé effectivement à cette blessure musculaire qui, comme l'a dit Olivier très justement, quand tu commences à être fragile sur un muscle, à un endroit, avec l'âge, ça s'améliore pas. Et surtout avec le manque de matchs, quand tu vas remettre de l'intensité à 100% sur des courses à haute intensité, rien ne peut te garantir que ça va pas répéter, ça de manière très claire. Et je trouve qu'il est en train d'un petit peu se protéger pour pas, entre guillemets, affronter la réalité de cette blessure avant la Coupe du Monde. Et ça, pour moi, quand tu cumules tout ça, je suis un petit peu inquiète.
Ok, juste un point avec Fabrice Hawkins sur ce qu'on en dit à Madrid. Est-ce que ça grince un petit peu des dents ?
Les supporters, forcément un petit peu, parce qu'ils aimeraient le voir jouer, d'autant plus que quand Carlo Ancelotti est questionné en conférence de presse, il dit que ça va, qu'il n'est pas blessé, mais qu'il n'est pas encore prêt à 100%. Donc forcément, du côté du public, on veut voir le Ballon d'Or sur le terrain. Après, avec Carlo Ancelotti, ça se passe bien, ils ont une bonne relation, une relation de confiance, et clairement, ce qui a été convenu entre eux, c'est que tant qu'il n'était pas prêt, tant qu'il ne ne se sentait pas apte à 100%, tant que il n'allait pas sur le terrain en se disant je ne vais pas me blesser, eh bien il allait rester sur le côté. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas joué jeudi soir et il va arriver. Vraiment, l'idée c'est qu'il arrive avec l'équipe de France à 100%. C'est presque comme si Karim Benzema, enfin Carlo Ancelotti, lui renvoyait l'ascenseur. Il a fait une grosse saison la saison passée, donc là reste tranquille, prépare-toi tranquillement et sois prêt à 100%.
Ok, vous voulez tous réagir.
On parlait de Christophe Galtier tout à l'heure. Si Christophe Galtier s'était retrouvé avec un cas comme ça, on aurait dit qu'il n'avait pas son groupe. Je dis juste ça comme ça. Mais c'est pas le seul. C'est pas le seul qui est mis sur le côté. Il y a aussi Modric, le cas Modric au Real
qui est géré aussi.
Donc le championnat est tellement serré en Espagne que c'est pas anodin. C'est qu'il y a vraiment matière à s'inquiéter qu'il ne puisse pas jouer. Donc c'est pas juste, il met ses stars au repos. C'est que si elles ne jouent pas, c'est qu'elles sont blessées.
Ok, vous vouliez réagir à ce que disait peut-être Marion Bartoli. Marc Madio.
Moi, je reste sur l'histoire des dynamiques. Il a fait une saison d'exception et il est dans une phase un peu délicate. Et donc, il va avoir du mal à retrouver cette dynamique. Alors, le sursaut, il va arriver parce que c'est la Coupe du Monde. Mais j'ai des appréhensions pour la suite pour lui.
Okay. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus.
Oui,
aussi.
Bah alors excusez-moi, moi que le Real réussisse ou foire sa saison, ça ne m'inquiète pas.
Et non, mais là,
vraiment, c'est le
dernier. Et ça ne m'intéresse pas.
Ça ne m'intéresse pas.
Si le Real se plante en Ligue des Champions, on s'en fout. Hein.
Ah ben, bah, je laisse chacun avoir son avis, mais effectivement, moi, c'est.
Cocorico, la France avant tout, t'as bien raison.
C'est pas ça qui m'inquiète.
Moi, s'il me faut une petite remontada sur le PSG à nouveau, je sais pas.
Pour ses relations.
Couper le micro.
Pour ses relations avec Ancelotti, on rappelle, il est Ballon d'Or, c'est quand même pas n'importe quoi, effectivement. Il a les clés d'une salle auquel ses petits copains n'ont pas accès, Modric peut-être, mais ça te donne effectivement le droit d'avoir un dialogue un petit peu plus franc avec ton coach, quel qu'il soit. Après, moi j'achète pas ces histoires. Je veux bien que les grands sportifs soient des mécaniques de précision, comme disait Olivier. Il a 35 ans, je rappelle qu'il a effectivement développé une gestion de sa forme physique hors du commun. Je suis désolé, tu vas à Lyon, tu vas célébrer dans ton club de cœur. Il y a aussi, on peut considérer qu'effectivement il devrait rester bien à la maison, sur le canapé, dans du formol. Tu peux aussi considérer qu'il est allé se nourrir d'une énergie positive, il est allé sur les terres de ses racines, il est allé se refaire le film assez vite, et tu te nourris de ça. Il n'est pas souvent en France, il est allé mesurer à quel point c'est devenu une idole, un totem pour nous, à quel point il est en train de s'inscrire.
Moi, ça me gêne pas.
Et ben justement, moi, il faut arrêter de dire, attendez les mecs, il y a la Coupe du Monde dans 10 jours. Il est allé se goinfrer d'énergie positive avant le mondial, et il n'est pas interdit de penser que ça peut aussi t'aider mentalement.
Non, mais il est blessé.
Un petit peu d'aplomb avant une grande échéance comme ça.
La dimension psychologique, on en parlait pour le 15 de France, là j'en reparle pour Karim Benzema, parce qu'on le disait, c'est vraisemblablement sa dernière Coupe du Monde. Évidemment, il n'en a pas disputé 50. C'est la seule chose qui lui manque dans sa carrière, un titre avec les Bleus. Je parle pas de la Ligue des Nations, un vrai titre avec cette équipe de France. Non, mais et puis cette équipe de France a été championne du monde sans lui. C'est-à-dire que lui, il doit se mettre aussi énormément de pression. Je suis le Ballon d'Or.
Le problème, c'est qu'on connaît pas la nature de sa blessure. S'il a une déchirure aux ischios, tu peux te nourrir de toutes les bonnes ondes que tu veux. T'as une déchirure aux ischios, tu vas faire un premier sprint, et ben ça va encore plus craquer. Donc le problème, c'est qu'on connaît pas réellement la nature de sa blessure. On ne sait pas la gravité de sa blessure.
Et je pense que la Coupe.
Fait des spéculations.
Et Marion, la Coupe du Monde, il faut y aller. Tu l'as dit, c'est sa dernière. Il veut y aller. C'est-à-dire que l'équipe de France, aujourd'hui, on a une chance, on a une attaque. Il y a vraiment beaucoup d'attaquants. Et donc, ça lui laisse aussi le temps de se préparer. On a vu, pendant des Coupes du Monde, Zidane rater des matchs. Et puis, être présent au moment où il faut pour la gagner. Donc, je pense qu'il compte sur ce temps aussi. Et surtout, pour lui, on parlait des autres, ceux qui sont au PSG, pour lui, surtout ne pas se blesser avant d'y aller. Il veut vraiment y aller.
Exactement. Bon, on en reparlera évidemment de Karim Benzema. La Coupe du Monde, ça commence dans 10 jours, dans une semaine, enfin dans 9 jours pour l'équipe de France avec ce France-Australie. Qui est capable, Fabrice, on ne dit rien parce que je sais que tu vas au Qatar. Qui est capable de me donner le match d'ouverture là, dans une semaine?
Qatar et Équateur, un truc comme ça.
Il est bon ou pas, Fabrice?
Oui.
Évidemment, Qatar, Équateur, Simon Dutin.
Marc, je serai pas devant mes écrans.
Marc, il m'a dit quoi? Il n'y a pas Laval? Non, il n'y a pas Laval en Coupe du Monde. Non, il n'y aura pas les tangos. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une vidéo sympa là qui est sur les réseaux sociaux, une vidéo des supporters qui seraient déjà arrivés au Qatar, c'est ça?
Oui, c'est ce que les autorités qatariennes tentent de faire croire au monde entier. Effectivement, on a vu des petites images où effectivement de dizaines, de centaines de supporters
portugais, allemands.
Ouais, ils ont tous le maillot portugais. Il y en a d'autres qui ont tous le maillot allemand. Voilà. D'autres qui ont tous le maillot anglais.
On n'est pas sûr de.
Ils ressemblent tous à des citoyens qatariens.
Mais c'est la fête.
Mais ils font la fête. Hein. Il y a les
fumigènes.
Vous comprenez pas l'humour aussi. Mais vous
avez déjà commencé à deux.
Au bon degré, vous comprenez pas.
C'est vrai, les figurants ont l'air d'être les mêmes à chaque fois. Et ce qui est drôle, c'est que. Non mais c'est vrai. Par exemple, il y a certaines nationalités. C'est plus facile de les faire passer pour d'autres. Vous voyez, on se dit ok, ça va, ça match. Voilà. Bon, c'est vrai que pour les Allemands, c'est un peu plus difficile. Mais allez voir ça. C'est assez croustillant et on sent qu'il y a déjà une ferveur et une fête magnifique. On sera là, en tout cas sur RMC Radio, diffuseur officiel de cette Coupe du Monde. Merci Fabrice.
Merci.
Tu pars quand toi? Vendredi?
Non, lundi, demain matin.
Tu pars dès demain matin?
Eh oui.
Tu vas nourrir la rédaction?
En reconnaissance.
Bah oui, on va en reconnaissance.
La durée de la Coupe du Monde.
Non, je rentre quand les Bleus rentrent. Espérons après le 20 décembre.
Mais bien sûr,
il va. Bah oui, dans toute la durée de la Coupe du Monde.
On se retrouve le 1er décembre en studio. Merci Fabrice d'avoir été avec nous. Et si tu as des petites images de tous ces supporters en nombre qui viennent évidemment au Qatar, n'hésite pas.
Avec plaisir.
On est là, toutes les informations sur rmcsport.fr. J'ai bien peur qu'on s'engueule. Je vous le dis, hein. Non, je préfère
vous le
dire avant.
Je pense que ça va chauffer.
Un homme en colère sur la potion magique de Djoko. Voilà, je sens qu'on va s'engueuler. Voilà, il faut dire les choses.
On va s'engueuler, mais c'est vrai, on va s'engueuler.
À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h30 de retour dans les grandes gueules du sport. On est très heureux d'être avec vous le samedi, le dimanche matin de 9h à midi. Vous avez pris vos petites habitudes. N'hésitez pas, si vous avez manqué la première heure et demie, alors déjà c'est pas très bien, mais c'est pas très grave parce qu'il y a le podcast. Vous pouvez déjà aller nous télécharger. Nous battons des records à chaque mois sur les podcasts. Donc merci de nous écouter aussi, même si c'est en différé. Nous avons évoqué le 15 de France. On a également parlé de Karim Benzema. Bref, vous pouvez y aller, c'est tout chaud, c'est sûr, notamment rmcsport.fr. Dans une dizaine de minutes, le zapping des GG. Vous n'avez pas trop aimé mon zapping à 9h45, j'ai l'impression, hein, Simon?
C'était un peu
timide. Ouais, c'était pas dingue.
J'ai l'impression que le pantathlon moderne, il n'y a plus personne, quoi, dès qu'on commence à en parler. Bon, c'est pas grave. J'ai du Kylian Mbappé qui n'est pas le plus joueur le plus cher du monde. Là, je suis en train de vous attirer. Ce sera dans 10 minutes, on en parlera, les copains, mais tout de suite, tous les dimanches, il est en colère.
RMC,
l'homme en colère.
Mais pourquoi est-il aussi méchant ? Pierre Amiche,
bonjour.
Bonjour à tous.
Alors pourquoi en colère aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je suis un homme en colère après Eric Salio, Marion Bartoli, Sarah Pitkovski et tous les miaou du tennis qui nous expliquent depuis 10 jours que l'histoire de Novak Djokovic est la potion magique. Mais c'est normal, hein ? Alors déjà, en guise de préambule, parce que je ne veux pas me faire attaquer en justice comme Roselyne Bachot, j'ai pas les moyens. Je ne dis pas que Novak Djokovic se dope. J'ai aucune preuve, j'ai aucun droit de le salir. Je revendique en revanche totalement mon droit de soulever quelques incongruités qui auraient valu une suspension à n'importe quel autre sportif. Petit rappel des faits. À Bercy, magie du smartphone, il y a un kiki qui filme le clan Djokovic pendant la demi-finale. Et là, son coach verse, en tentant manifestement de se cacher, de la poudre dans de l'eau. La bouteille vole de main en main jusqu'à la chaise de Djoko qui boit le contenu inconnu et secret d'une bouteille venue des tribunes. Et je m'arrête 2 secondes sur le truc. Imaginez 5 secondes la même chose avec Marc Madio. Non mais je rigole pas. Imaginez Marc filmé en train de foutre de la poudre dans une gourde en se cachant, puis filer la bouteille à Godu ou à Pino et que lui il gagne le tour. Hein. Vous pensez que Marc il serait ailleurs que dans les locaux de la gendarmerie ce matin? Alors revenons à nos miaou. J'ai donc compilé pour vous le top 3 des excuses qu'on va trouver au Joker. Je précise que tout ça c'est des vraies excuses que j'ai entendues, hein, pour de vrai. Y a pas de trucage. Top 3. Il ne se justifie pas parce qu'il en parlera quand il sera prêt. Tout ce que vous voyez n'est pas sujet à controverse. Il peut que ça soit une affaire privée. Est-ce que c'est permis? Ça, c'est sa femme qui le dit. Hein. La fameuse technique du « il parlera quand il sera prêt ». Normal. Hein. Top 2. Novak Djokovic, il peut pas se faire vacciner. Comment on peut imaginer que ce mec se dope? Son corps est un temple, man. Bah ouais, celui de Simon aussi. Hein. Bon, lui, c'est plus le genre de temple indien blindé de rats où les singes y chient par terre. Mais Djoko, il est comme Simon. Ils sont fondamentalement sains. Hein, on tient le même discours d'ailleurs avec Nadal, avec Federer et tous les copains. Hein. Ils sont plus grands que l'humanité. On peut pas soupçonner le gratin mondial parce que ce sont des êtres de lumière et de bonté. Hein, et c'est connu d'ailleurs. Les mecs nuls à chier, ils se dopent. Et puis les cadors, ils se dopent pas. C'est scientifique, c'est prouvé tout ça. Enfin, mon excuse préférée, c'est... Non mais en fait, ils se cachent
parce qu'ils veulent pas donner la marque de la poudre. Parce que tous les mecs le font et ils veulent pas se faire piquer leur secret. Bah oui, le célèbre secret industriel autour de la poudre de perlimpinpin. Et c'est pour ça. D'accord, l'entraîneur il se cache, mais c'est comme pour la recette Tipiak. C'est parce que c'est très très bon. Hein. Et puis il faudrait pas se faire piquer la recette de l'eau. Hein. On sait jamais à ça. Ouh. Et tout ça, ça tiendrait. Sauf que ce qui m'agace, c'est qu'à Wimbledon, le 8 juillet, Djokovic parle d'une potion magique et le 10 juillet, de nouveau, il aborde l'idée d'un produit aux vertus magiques, mais secret. Et réaction des journalistes présents en conférence au moment où ils parlent de la potion magique. Eh ben, il se marre, il rigole. Hein. Le mec fait un des sports les plus durs du monde. Il est connu pour être avec Nadal le joueur au physique le plus incroyable du circuit. Il met des pétés à la terre entière depuis 15 piges. Et quand il prend un truc magique qui fait gagner, Eric Salio et ses potes, ils rigolent, ils se marrent. Et c'est ça le drame des sports où on accepte que les interviewés soient tellement plus forts que les intervieweurs. On a l'impression que quand ils répondent à des questions, ils te font une fleur. On se met à attendre qu'ils nous éclaboussent de leur drôlerie. Ah oui, Roger. Ah oui, Rafa. Ah oui, Nolé. C'est le seul sport où les journalistes, ils appellent les gars par leur petit nom. Hein. Puis on oublie que le tennis, c'est un sport où le spectre du dopage n'est pas moins sombre qu'ailleurs. Villander, Agassi, Korda, Chela, Puerta, McEnroe, Hingis, Sharapova, Cilic et tout récemment Simona Halep ont tous et toutes été contrôlés positifs ou ont fait des aveux de dopage après leur carrière. Mieux, en juin, le Daily Mail affirme que l'ITF prévenait les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs de la date des contrôles inopinés. Même son de cloche chez l'ancien patron de la FLD, Jean-Pierre Verdi, il n'a pas pu procéder à des contrôles inopinés dans les grands tournois français, sauf à une exception, à Bercy, et une seule fois. Et ces tests auraient provoqué la colère du numéro 1 mondial de l'époque, mettant un point final aux contrôles inopinés dans le tennis français. Enfin, en France, pardon. Tout ça pour dire que le tennis, le foot, finalement, aucun sport n'a le droit d'être au-dessus de tout soupçon. Balayer les doutes dans un sourire, ça ne doit pas pouvoir marcher. Je comprends même pas comment, dans un sport professionnel, les gars, ils peuvent boire quelque chose qui vient des tribunes. Et même si c'est pas du dopage, même si Djokovic est plus blanc que blanc, le doute ne doit pas exister. Djokovic est probablement innocent, mais il se rappellera peut-être quand même de cette petite phrase de William Shakespeare. La réputation est un préjugé vain et fallacieux, souvent gagné sans mérite et perdu sans justice. La sienne n'est plus à faire, mais sa réputation pourrait, à force de secrets, de cachotteries, de défenses minables, se voir totalement défaite.
Merci beaucoup, Pierre Amiche, pour cet homme en colère. Est-ce que vous aussi, vous êtes en colère? Les GG, après cette histoire de la potion magique. En colère, pas en colère. Olivier Giraud.
Je suis pas en colère.
Marion Bartoli.
En colère contre qui? Contre Pierre ou contre Djokovic? Ça dépend. En colère contre Pierre, très en colère
très
contre
bien.
Pierre, même si je l'adore.
Et dans cette histoire?
Mais pas en colère contre Djokovic, non.
Ok, mon cher Marc Madio.
Il y a longtemps que je ne suis plus en colère.
Ok, Simon Dutin.
On pourrait croire qu'il est en colère, mais rien à voir.
Simon.
Non, je suis pas en colère, Jean-Christophe.
Ok, parole à la défense, Marion Bartoli, tu commences.
Non, mais en fait, je comprends même pas cette histoire. C'est-à-dire que si tu reprends tous les matchs de Djokovic depuis les 15 dernières années, qui est son préparateur physique ou son kiné, qui lui fasse une bouteille avec de la poudre isotonique ou n'importe quelle poudre à l'intérieur, je peux t'en sortir 150. C'est juste que là, maintenant, en France, ça a été filmé, ça a été mis sur les réseaux sociaux, qu'il y a un tournoi en France et que donc on est en train de se dire, oh là là, c'est la première fois qu'il le fait. Sauf que je peux citer 15 joueurs qui font pareil. Moi-même, j'étais en équipe de France. Alors, on a tous nos petits rituels et nos petits, entre guillemets, porte-bonheur. Et donc, on vient sur le terrain avec un certain nombre de bouteilles préparées à l'avance avec de la boisson énergétique à l'intérieur. Alors, à tort ou à raison, peut-être qu'on est un peu trop superstitieux. Mais je me rappelle très bien, j'ai joué un match de Fed Cup, j'avais Amélie Mauresmo à côté de moi sur le banc. T'es un peu plus tendu que d'habitude parce que c'est un match de l'équipe de France, donc tu bois un peu plus de boissons sucrées que d'habitude. J'en ai plus, je me retourne vers le staff de l'équipe de France, je demande au kiné de me préparer une autre bouteille et là, effectivement, il prend une bouteille d'eau, il met de la poudre à l'intérieur, il me la donne. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, je vois pas en fait. J'ai l'impression qu'en écoutant Pierre, il va lui faire la potion magique d'Astérix, il va la boire, il va d'un coup avoir des forces décuplées, il va battre tous les Romains. Enfin, ça devient ridicule quoi. Enfin,
cette histoire est ridicule.
Non, mais j'arrive même pas à comprendre. J'arrive même pas à comprendre comment on en arrive là dans un débat. Je comprends pas. Donc, quelle boisson? Vas-y, explique-moi une boisson. Donc, il la boit. En plus, je crois que c'est à 6-5 au troisième set contre Rune. D'accord? Donc, va avoir un effet en l'espace d'une minute pour en plus un match qu'il a perdu.
Je me demande si c'était pas contre Tsitsipas. Mais bon, je crois que c'était en demi-finale.
Mais il le fait aussi contre Rune. Mais il le fait aussi contre Rune en finale. Et donc, va avoir un effet instantané et d'un coup, il va plus être fatigué, il va gagner tous les, enfin, j'arrive même pas à comprendre comment on peut arriver à avoir ce débat-là. Encore une fois, si tu reprends même des matchs de Zverev, son kiné fait exactement la même chose, je peux te sortir 10-15 joueurs qui font pareil. Je comprends.
Marion, moi,
c'est comme si tu me disais, ouais, dans Donc on va avoir une boisson donc dopée, dopante, mais on va le faire en tribune, mais on va essayer de se planquer alors que tout le monde, c'est que des matchs devant 15 000 personnes, tout le monde aujourd'hui a un téléphone portable, donc tout le monde peut filmer, et on va lui donner une bouteille ou un produit dopant à l'intérieur. Mais je sais pas si tu te rends compte de l'ineptie de cette théorie, quoi. J'arrive pas à comprendre qu'on en soit arrivé là dans le raisonnement, en fait.
Marc Madiot.
Oui, j'ai 63 ans.
Félicitations, bon anniversaire.
Et ça date de quelques mois. J'ai donc une certaine expérience du sport de haut niveau. Moi, je vais juste vous donner un exemple. Il y a quelques années, j'étais en contact avec Floyd Landis. C'était avant son histoire du Tour de France. Et quand on recrute un coureur, on regarde ses données sportives. Et puis, on demande à ce que notre médecin ait accès à son dossier médical. Et j'étais avec mon frère, en entretien avec l'agent de Floyd Landis. Landis n'était pas là. Et on discute du contrat qui était réalisable, de l'aspect sportif qui pouvait nous intéresser. Et à un moment, on aborde donc le sujet du dossier médical. Et là, que s'est-il passé ? L'agent nous dit, mais comment pouvez-vous nous demander le dossier médical ? Floyd ne prend aucun produit, sa religion le lui interdit. Et là, mon frère a eu une petite réflexion, il dit, oui, mais on préfère voir quand même le dossier médical. On n'a jamais vu le dossier médical, on n'a jamais recruté Landis, et on connaît la suite de l'histoire avec Landis. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que faut pas se fier aux apparences. Alors, on pourrait dire, oui, il faut pas se fier aux apparences, ce n'est qu'une bouteille, ce n'est que ceci, ce n'est que cela. Moi, je suis désolé, Marion, mais depuis un certain nombre d'années, dans notre sport, nous, on a eu des difficultés. On a peut-être, dans un premier temps, essayé de les contourner ou de les oublier. Faut quand même savoir une chose, c'est qu'à un moment ou un autre, le parpaing, on peut se le prendre dans la gueule. Je pense et je crois qu'à un moment ou un autre, les disciplines sportives qui ne s'implique pas à 100% ou à 1000% dans l'antidopage, à un moment ou à un autre seront rattrapés par le sujet et par le dossier. Il est impensable pour moi, mais encore une fois, j'ai 63 ans, ça doit être mon âge, il est impensable pour moi que des sports où il y a de telles sommes d'argent qui circulent, il n'y ait pas des gens qui aient envie de contourner les situations. Voilà, c'est tout. Moi, mon discours s'arrêtera là.
Non, mais faut arrêter avec ce dogme. Et là, je suis pas du tout d'accord avec Pierre. Le tennis est un sport archi contrôlé. Tu dois donner une heure par jour.
Par mois, par an, sur combien d'épreuves?
Moi, quand je jouais, je tournais à 30 contrôles par an, dont 15 inopinés.
Bon, bah, c'est pas beaucoup, 15, hein.
À 15 inopinés sur une saison, tu fais 20 tournois, t'as déjà 30 contrôles, t'en as c'est quasiment systématiquement en tournoi, plus 15 où on vient chez toi à une heure que t'as donnée, ou n'importe où dans le monde à une heure que t'as donnée, ça fait quand même beaucoup. Donc je vois pas où là où j'aurais pu me doper. Et d'ailleurs ceux qui ont été dopés ou ceux alors que Simone Halep dit qu'elle a pas été dopée, qu'elle va donner la vérité,
juste une petite question. Marc Madiot, sans porter de jugement. Quand tu as vu Roland Garros avec Nadal, il y a rien qui t'a choqué ?
Bah, il a eu une ordonnance thérapeutique.
Mais après tu demandes. Nous on a même pas ça nous.
C'est votre sport. Mais dans le tennis, il y a des ordonnances thérapeutiques. Après, tu peux dire, effectivement, on doit enlever toutes les ordonnances thérapeutiques, mais il a rien enfreint du tout comme loi, Rafael Nadal. Il a rien enfreint comme loi. Il a été voir un médecin indépendant qui lui a octroyé une ordonnance thérapeutique pour qu'il puisse soigner son pied pendant le tournoi. Il a fait tout dans les règles, il a suivi le protocole. Après, tu peux dire que le protocole est mauvais, mais ça, c'est un autre débat.
De toute façon, là-dessus, sur ce dossier, et on met de côté, évidemment, Novak Djokovic dans vos discussions, on ne vous mettra pas d'accord, parce que le cyclisme a l'impression d'être beaucoup plus contrôlé que les autres, ce qui est certainement la vérité. Et le tennis ne va pas dire, bah oui, mais on est le tennis, on n'est pas le cyclisme, donc on ne va pas être... Donc là-dessus, je pense qu'on n'arrivera pas à vous mettre d'accord. Sur cette histoire de Novak Djokovic, est-ce que vous comprenez que ça prenne de l'ampleur ? Votre regard, Olivier et Simon.
Moi, je trouve ça gênant, ouais. Ah ouais, je trouve ça gênant et en fait pas parce que
ça prenne de l'ampleur ou la vidéo tu la trouves un peu gênante, quoi.
Ouais, je trouve la vidéo gênante, ouais. Je trouve la vidéo gênante parce que justement c'est l'un des meilleurs joueurs du monde et depuis très très longtemps. Et justement parce que il y a eu dans le temps
à chaque fois des événements qui font qu'on se pose des questions et que le doute, c'est ce qui tue tout. La rumeur, c'est ce qui tue tout. Et je trouve qu'ils ne se protègent eux-mêmes déjà pas contre ça. Et que surtout, l'image que ça renvoie, elle est pas bonne. Et que quand t'es le numéro un mondial, tu dois faire attention à ces choses-là. Tu dois pas prendre une bouteille qui arrive des tribunes. Je suis désolé.
Le numéro un mondial, en ce moment, c'est Alcaraz.
Oui, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que, après tout ce qui s'est passé, les moments où il est complètement épuisé, il part dans le vestiaire au bout d'un quart d'heure. Et je ne juge pas ça. Et qu'il revient, et ça fait que les gens se posent des questions. Donc, à un moment, juste faire un petit peu attention, les gens regardent et on n'est pas tous des joueurs de tennis. Et que c'est vrai que là, on voit un truc où selon les sports, on le jugerait pas de la même manière. Donc, le tennis n'est pas au-dessus de la suspicion et tout Novak Djokovic, et même si, je me dis pas qu'il est dopé exactement comme Pierre, mais à un moment, il faut pas agiter le chiffon rouge et faire des choses comme ça. Je suis désolé.
Ok, Simon, le mot de la fin.
Je suis un peu sur la même ligne qu'Olivier. Moi, j'arrive pas à acheter le fait qu'il puisse y avoir le moindre truc interdit dans la potion entre guillemets qui a été préparée. Je doute pas que les tennismans soient également contrôlés. Ce qui m'agace un petit peu, c'est plutôt sur la forme. C'est la force du symbole, Olivier le rappelait, voilà, tu sais que t'es épié, tu sais qu'il y a une exemplarité à donner, et tu sais que même si ça te paraît futile et ridicule ou disproportionné, tu sais qu'il y a forcément des gens, soit extérieurs au sport de haut niveau, soit juste des emmerdeurs, des chercheurs de polémique, qui vont forcément soulever la question, poser la question, t'es sur un événement ultra médiatisé, et ce que j'aime pas, effectivement, c'est la petite musique, alors je sais que ça va agacer Marion, mais cette espèce d'entre-soi, écoute, nous, on est le tennis, on est quand même pas un sport de voyous, vous allez arrêter de nous prendre la tête. La compagne de Djokovic qui dit il n'est pas encore prêt à en parler, respectez-le, prenez soin de vous, allez faire un tour dehors et tout, arrêtez de vous. Bon, il y a une sorte de mépris en fait pour un doute qui, qu'on l'accepte ou pas, peut quand même être légitimé par la grande histoire du dopage dans le sport de haut niveau.
Ok, allez, je reprends la main, les copains, sur ce dossier. On aura bien compris. Vous avez pu vous exprimer clairement. Chers auditeurs, si vous voulez en parler, vous composez le 32-16, c'est dans moins d'une heure maintenant, aux alentours de 11h40. On sera là évidemment pour répondre à vos requêtes et surtout si vous avez envie de batailler avec une GG, ça c'est pour mon plus grand plaisir personnel. 10h46, on se retrouve dans quelques instants. Le zapping des GG. Kylian Mbappé n'est plus le joueur le plus cher du monde. Tiens, s'en fout pas, tout de suite.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h48, on retourne dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi à partir de 11h. Le bras de fer des GG, c'est votre nouvelle séquence depuis le début de la saison. On ouvre le dossier Victor Wembanyama qui a disputé vendredi soir son premier match avec l'équipe de France. Faut-il déjà en faire un patron ? Il y aura une team patron, une team pas patron. Ce sera un 3 contre 1 et on en parle donc à partir de 11h. On vous attend au 32-16. Tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des GG. Le retour.
J'ai bien senti que vous étiez resté sur votre fin à 9h45, donc je vais tenter évidemment de vous intéresser avec les informations.
Il y avait pas d'informations dans ce zapping.
Sélectionnées. Non, c'est pas parce qu'on n'aime pas le pentathlon moderne qu'on peut. Non, c'est pas possible. T'avais peut-être raison. La première information à vous donner dans ce zapping des GG, c'est Kylian Mbappé qui n'est plus le joueur le plus cher du monde. On s'en fout pas. Marc Madio.
On s'en fout.
Oh Marc, je pensais que ça allait t'entendre. Ah, ok.
Et ça, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais.
J'en ai une autre pour toi dans quelques instants. Je suis sûr que ça va t'intéresser. Mario Bartoli.
Je m'en fous pas.
Simon Dutin.
Je m'en fous pas.
Ok. Olivier Giraud.
Je m'en fous pas.
Kylian Mbappé a beau être le joueur le mieux payé au monde, il n'est désormais donc plus considéré comme le footballeur le plus cher de la planète d'après le site de référence Transfermarkt. L'attaquant français du Paris Saint-Germain est désormais devancé par Erling Haaland, la valeur marchande du buteur norvégien de City est dorénavant estimée à 170 millions d'euros. Kylian Mbappé, lui, est valorisé à 160 millions d'euros. Précision importante, c'est pas Kylian Mbappé qui a baissé, c'est plutôt le Norvégien, parce qu'il était à 150 au début de la saison, désormais il est à 170. On lit comment cette information, Simon ?
J'ai dit je m'en fous pas pour dire qu'en fait on s'en fout.
Pour avoir le droit de dire qu'en c'est fait, bien, on s'en t'as fout. Raison, non mais ça marche, c'est la règle.
Non, mais alors il faut rappeler voilà que c'est un site qui fait désormais office de référence, Transfermarkt, qui évalue la valeur des joueurs. Je crois qu'il y a quelques mois ça avait été Phil Foden qui était numéro 1, l'anglais là, qui est toujours sur le... il est quatrième de... ça veut pas dire grand chose parce que effectivement bon c'est pas une clause de libération hein, un mec qui veut mettre trois fois plus pour acheter Mbappé que pour Haaland, il aura le droit,
c'est anecdotique quoi. Qu'il soit passé dedans, c'est un symbole,
c'est anecdotique, mais ça fait que confirmer que voilà, il y a cette envie de créer pour les années à venir cette espèce de duel de référence entre les deux mecs qui vont dominer le football mondial. Il fait un véritable carnage, notre ami norvégien, depuis le début de la saison. Moi en ce moment, ça fait quelques matchs qu'il a pas marqué, 23 buts en 18 matchs, c'est quand même assez terrifiant. Donc rien de nouveau sous le soleil. On savait que c'était les deux attaquants qui allaient terroriser l'Europe pour les années à venir. Bon, voilà. Mais est-ce que la question que je me pose, c'est est-ce que les deux en ont quoi que ce soit à faire? Est-ce que il y en a un des deux que ça agacerait un petit peu?
Olivier,
que Cristiano avait bloqué Transfermarkt sur Instagram, il me semble, parce que justement ils avaient baissé sa cote. Et donc, ils avaient eu un échange en message privé sur Instagram en demandant pourquoi il avait baissé la cote, etc. Et finalement, il a fini par bloquer. Donc, je pense que les joueurs regardent plus que ce qu'on ne pense.
Mais on est dans le règne de la data. Et effectivement, Transfermarkt, pour ceux qui consultent pas, ne fait pas que de la cotation de joueurs, hein, répertorie, les apparitions, les postes auxquels les joueurs ont été utilisés, les tactiques employées par les entraîneurs et tout. Donc, effectivement, à mon avis, ils ont un œil là-dessus. Et bon, ça les fait sourire ou ça les agace.
Ok, Olivier.
Ça dépend aussi.
Ouais, vas-y Marion, j'arrive dans quelques instants.
Non, vas-y Olivier.
Il répertorie aussi quelque chose, c'est dans quel championnat tu joues. C'est-à-dire que bizarrement, il y a beaucoup d'anglais là-dedans. Il y a beaucoup d'anglais et donc...
joueur de première ligue.
Oui, de première ligue. Le nôtre, il joue Kylian Mbappé dans le championnat français. Donc, est-ce que la cote, elle vaut aussi par rapport dans le championnat dans lequel tu évolues?
Par rapport aux années de contrat.
Je pense que oui aussi. Je pense que oui aussi. Et que moi, j'évalue les joueurs, en tout cas personnellement, à l'orée du temps. Hein, pour l'instant, ce sont deux jeunes joueurs. Celui qui a prouvé le plus, pour l'instant, même si Haaland, tout le monde voudrait le voir plus haut et faire monter sa cote. Je ne sais pas pourquoi, mais il y en a un qui est champion du monde. L'autre, il arrive, il fait un début de saison extraordinaire. Non. Mais ce que je veux te dire, c'est que est-ce qu'on juge la cote d'un joueur et tu l'as dit et toi, t'es à fond là-dedans. C'est-à-dire qu'en un mois, il a mis 23 buts, c'est extraordinaire. Est-ce qu'à partir de là, t'as mis 23 buts, t'es le meilleur joueur du monde et que t'es le joueur le plus cher? Je n'en suis pas persuadé du tout.
Ok, Marion, rapidement sur ce dossier.
Non, mais ça dépend en fait des années de contrat. Et comme Haaland a un contrat jusqu'en, il me semble, 2027, il a un contrat plus long que Mbappé. Du coup, il a une valeur qui augmente. Mais après, c'est pas du tout les mêmes postes. Mbappé est beaucoup plus complet qu'Haaland. Haaland, il se met vraiment dans le rectangle et il se tourne et il met un but. Mbappé a un niveau technique qui est pour moi en tout cas bien meilleur et un joueur beaucoup plus complet. Mais en fait, ça fait vraiment la part belle aussi aux jeunes. Quand tu vois le troisième, c'est Vinicius. Quand tu vois le quatrième, c'est Phil Foden. Pedri, c'est que des jeunes. Donc finalement, la jeunesse plus le nombre d'années de contrat, c'est ce qui donne aussi la valeur marchande aussi élevée.
Ok, parfait les copains. Bon, on va passer à un autre sujet. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner. Il y aura un job dating qui sera organisé le 15 novembre à Laval, en Mayenne. Un job dating au palindrome de Laval. Voilà. Ça intéresse quelqu'un? On s'en fout pas, Simon Dutin.
On s'en fout,
Olivier Giraud.
On s'en fout.
Marion Bartoli.
C'est où Laval?
C'est en Mayenne, dis donc.
Marc
Radio. Bon. Ok, il s'en fout. Bien joué. Bon, on zappe alors.
T'as vraiment pas beau ces zappings.
C'est hein, dommage parce que j'avais des bonnes informations à vous donner. C'était un job sportif, un dating sportif.
On s'en fout.
Oui, très, très bien. Ok. Je m'étouffe avec cette information. Troisième information dans le zapping des GG à vous donner. C'est en rugby. L'Italie qui bat l'Australie pour la première fois de son histoire. On s'en fout pas, Marc.
Ah là, on s'en fout pas.
Ah, merci. Marion Bartoli.
Non, moi je m'en fous pas, vas-y raconte-moi.
Ok.
Moi je vais écouter Marc, mais je m'en fous pas.
Ok. Simon Dutin, tu t'en fous pas, très bien. Samedi de rêve pour l'Italie. Le 15 italien a donc créé l'exploit à Florence et non à Laval, en battant l'Australie pour la première fois de son histoire, 28-27. Les Australiens qui avaient déjà été battus d'un point la semaine dernière par notre 15 de France, 30-29. Ils concluront leur tournée de novembre face à l'Irlande samedi prochain. Et l'Italie affrontera l'Afrique du Sud. Bon courage aux Italiens, mais magnifique performance, Marc.
Oui, c'est bien, ça montre que l'Italie est en progrès, mais là encore une fois, le verdict viendra au moment de la Coupe du Monde, pour moi, voilà. Mais c'est quand même un signe encourageant pour l'Italie.
Un signe encourageant pour les Italiens. Vous voulez rajouter quelque chose, personnel? Merci, ouais, Olivier.
Moi, c'est surtout un signe pour les Français, ne pas mettre l'équipe bis contre le Japon, parce qu'il pourrait nous arriver la même chose.
Ok, allez, je reprends la main. Qu'est-ce qu'il y a, Simon?
Bah, c'était un match formidable. On rappelle, ils prennent un essai après la sirène quand même, et les Australiens ont la transformation pour la gagne. Ils ratent la transformation. C'est la première fois dans l'histoire du 15 d'Italie qu'ils battent les Australiens. Ils prennent suffisamment de pilés dans le tournoi. Moi, je pense que leur horizon, c'est pas du tout la Coupe du Monde, et que celle-là, elle va rester dans l'histoire du rugby italien, mon cher Jussé.
Parfait. 10h56. On revient dans quelques instants pour la suite de votre émission. Le bras de fer des GG autour de Victor Wembanyama. Faut-il déjà en faire un patron en équipe de France? Ça va être chaud. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.